Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On refait le match, quatrième de la saison pour le meilleur de l'expertise et du décryptage. Émission tout public, vous le savez, avec respect, bienveillance, bonne humeur, rire et sourire durant 90 minutes. Avant de retrouver ce soir, et comme chaque samedi soir, Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Abou, 20h-23h, RTL Foot et l'intégralité de Saint-Étienne-Strasbourg, troisième journée du championnat de France de Ligue 1. Depuis 17h d'ailleurs, Montpellier-Nice. Le score actuellement 3-1 pour les Montpelliérains. À 19h, quart d'heure par quart d'heure également de la troisième journée de Ligue 2. Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, jusqu'à 19h, surprise, Vincent Labrune, nouveau patron de la Ligue du football professionnel. Alors faut-il parler de dégagisme ou de gilet jaunisation du football français? On posera la question. 19h, Paris Saint-Germain, Marseille, dans le contexte Covid, sans public, avec des absents, probables ou pas titulaires. Le classique est-il un match comme un autre? Ce sera demain soir au Parc des Princes. 19h30, les supporters sont peut-être au bord de la crise de nerfs. Le championnat de France à peine démarré. Privé pour la plupart de tribunes, ou présent en tribune mais sans respecter les gestes barrières. Comprenez-vous ce rififi? On vous posera la question, on posera la question à nos débatteurs. Enfin, 19h45, la nouveauté, vous la connaissez désormais, les tirs au but, bas les masques. On saura qui dans ce studio a du mental ou qui a la tremblote. À mes côtés, Cindy Colmenares, le retour cette saison. Bonsoir Cindy.
Bonsoir, ravi d'être parmi vous.
Gilles Verdez, le procureur du football français. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Florian Gazan, que vous retrouvez chaque samedi matin, notamment la grosse cote, 8h, dans le journal de Stéphane Carpentier. Bonsoir.
Bonsoir.
Enfin, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL, déjà dans ses fiches de Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille.
Bonsoir, bonsoir à tous.
En régie pour relayer vos messages sur le compte Twitter @RTLFoot, émission, vous le savez, 100% interactive, filmée également sur RTL.fr ou sur la toute nouvelle application disponible en 3 clics. Baptiste Durieux, bonsoir. Bonsoir Baptiste. Et réalisation Lucas Dindeleu. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Allez, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet désormais avec Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Florian Gazan, Philippe Sanfourche. Le direct également avec le match qui oppose actuellement l'équipe de Montpellier à celle de Nice. Éric Martin, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Nous en sommes
à 3-1 pour Montpellier. On est entré dans les 10 dernières minutes, les Montpelliérains qui ont bien dominé cette partie pendant les 70 premières minutes. C'est un petit peu plus compliqué, les Niçois qui mettent plus le pied sur le ballon, plus d'agressivité. Une fin de match qui risque d'être animé.
Et qu'on pourra éventuellement débriefer dans quelques instants au moment du coup de sifflet final. Également le premier match de Bielsa Première Ligue en Première Ligue face à Liverpool, et Liverpool a ouvert le score au bout de 3 minutes sur pénalty Mohamed Salah. Liverpool mène face à l'équipe de Leeds sur le score d'un but à zéro. Messieurs, Vincent Labrune, nouveau patron de la LFP. Messieurs, madame, pardon. Faut-il parler de dégagisme ou d'une sorte de gilet jaunisation du football français? Je rappelle rapidement comment ça s'est passé jeudi dernier. 15-10 au conseil d'administration contre Michel Denisot, 15 voix contre 10. Bien que Michel Denisot ait remporté lors de l'Assemblée Générale la majorité, 53 à 47, donc il y a eu un deuxième tour. Et c'est donc à la majorité relative. Ça me rappelle un peu une réunion de copropriétaires, vous savez. Tout le monde a la majorité, et à un moment donné, il y a les millièmes qui arrivent, ou les tantièmes, et vous ne pouvez pas faire le ravalement de votre façade.
Et à la fin, ça se finit au point.
Voilà.
Là, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait arriver assez vite.
Et ça se termine souvent comme ça aussi, d'ailleurs, une Assemblée Générale à la Ligue du football professionnel. Comme les... Bon, alors, donc, Michel Denisot, 75 ans, c'est d'une certaine façon un échec pour lui. C'est un échec également pour Noël Le Graët, pour Nasser Al-Khelaïfi qui le soutenait, pour Jean-Michel Aulas
surtout
également.
Jean-Michel Aulas.
Et c'est une victoire, alors on va dire, pour les clubs un peu plus petits, d'où ma formule de gilet jaunisation. Comment vous l'appréciez, cette victoire de Vincent Labrune?
Moi, je suis assez d'accord avec cette formule de dégagisme. C'est du dégagisme et c'est de la fronde. C'est comme les électeurs qui ne veulent pas se laisser imposer la personne pour laquelle ils devraient voter selon les élites ou les décideurs. Ils veulent voter pour qui ils l'entendent. Ben, les présidents de club, ils ont dit, vous voulez que ce soit Denisot, Monsieur Legret, la Fédé, Monsieur Aulas, Lyon, Monsieur Nasser Al-Relaifi, le Qatar, ben, ce ne sera pas lui. Voilà. Et on vote à peu près pour n'importe qui. J'ai rien contre Vincent Labrune, mais c'est...
Enfin, c'est pas Donald Trump non plus.
Ah, mais c'est le président de l'opportunisme, hein. Effectivement. On a voulu dégager... Michel Denisot.
Alors néanmoins, il faut tout relativiser bien évidemment, car on parle du Paris Saint-Germain, de Lyon, de la Fédération, c'est un échec. Mais enfin, derrière Vincent Labrune, il y a quand même des clubs comme l'AS Saint-Étienne, comme l'Olympique de Marseille, comme à Lille, c'était un peu plus flou.
Hein, Montpellier aussi.
Comme
Montpellier,
Lorient.
Comme Lorient. Donc là, on est effectivement dans un football un peu plus raisonnable. Mmh. J'ai pas dit raisonné, Philippe Sanfourche, mais raisonnable.
Mais c'est une question d'argent, comme toujours. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gâteau à se partager. Pour l'instant, chacun sait à peu près quelle part il a du gâteau. Et il y a cette ombre, ce serpent de mer depuis quelques années de la fameuse société commerciale la Ligue veut mettre en place. Les fers de lance de cette société commerciale sont très clairement identifiés. Ce sont les plus gros, notamment le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Il se trouve que les présidents de clubs que vous avez cités, des clubs comme Montpellier, des clubs comme Lorient, ils se posent la question de savoir quelle va être cette redistribution. Est-ce qu'ils vont phagocyter ce gâteau ? Donc là, il y a eu clairement une réaction par rapport à une interrogation sur les revenus financiers.
Florian Gazan, Cindy Colmenares, avant de vous entendre, la société commerciale, on ne va pas faire trop technique hein, pour le public, mais la société commerciale, c'est évidemment en remplacement de la Ligue du football professionnel.
Et, en gros, c'est pour vendre plus cher les droits à l'étranger. Voilà. Et qui sur quel nom on vend les droits à l'étranger, pas sur Lorient et pas sur Metz. Donc, le PSG redistribue prend tout le gâteau.
Voilà. Et alors, la société commerciale existante déjà pour le football anglais.
Exactement, mais après, il y a plusieurs façons de l'envisager. Moi, je ne verrais pas, par exemple, pour le football français, une société de ce style-là à l'anglaise, parce que le football ici, ce n'est pas tout à fait pareil. Par contre, à l'allemande, avec une filiale ou quelque chose comme ça, pourrait être plus intéressant. Mais pourquoi ? Parce qu'on a assez entendu râler pendant toute la crise du Covid, parce que c'est pour ça qu'on en est là. Finalement, qu'on disait l'FFF fait un peu trop la mainmise sur la LFP, on ne comprend pas trop ce qui se passe, donc ils ne savaient pas, finalement, ils ne s'appréciaient pas cette façon dont la LFP était un peu dépendante. Là, si on passe à ce style des sociétés commerciales, on va effectivement se retrouver avec la FFF.
On n'y passera pas. On n'y
passera pas.
C'est le football des petits qui l'a emporté.
Écoutez la première déclaration de Vincent Labrune. Il parle de modernisation et il parle de l'image du produit.
Au Cayasso,
il a des termes qui donnent quand même quelques garanties aux gens qui pourraient avoir peur. Il est quand même un peu là aussi pour ménager la chèvre.
Mais c'est un politique, Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été élu, Vincent Labrune. C'est au-delà de ça. Je pense qu'on va faire un parallèle entre le choix de l'entraîneur, souvenez-vous, à Lyon, Laurent Blanc et Rudy Garcia. Laurent Blanc est arrivé là-bas en se disant je suis Laurent Blanc, ça va le faire. Garcia, il avait bossé son dossier, il avait travaillé peut-être dans le sens du poil, et il est passé. Et je pense que ça a été exactement la même. Michel Denisot, il est arrivé porté par Le Gret, Paris Saint-Germain, OL. Voilà, limite, il est arrivé, c'était comme si c'était fait. En termes de com', 3 jours avant quand même l'élection de la Ligue, il annonce qu'il va faire une chronique sur une radio concurrente. Enfin, ça n'envoie pas un signal de quelqu'un qui est hyper motivé pour le poste. Alors que Vincent Labrune, c'est quelqu'un de réseau. Moi, je l'ai connu à l'époque de Réservoir Prod quand il s'occupait de la com'. C'est quelqu'un qui s'est passé les bons coups de fil, c'est un malin. Et il a monté vraiment sa candidature. Et je pense qu'il en avait vraiment plus envie que Denisot.
Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention à Michel Denisot qui aurait pu à la fois faire une émission de radio tout en dirigeant.
Oui, mais le signal est quand même pas très malin. 3 jours avant cette élection, vous annoncez que vous allez faire une chronique sur une radio, ça veut dire quelque part que vous ne serez pas forcément à 100% dans la tâche.
Peut-être avait-il su déjà que c'était match perdu.
Il savait que Vincent Labrune faisait un lobbying effréné. Vincent Labrune, pour moi, c'est Tony Blair qui rafle pour Londres les Jeux Olympiques au détriment de Paris. Cette fameuse session, il va frapper à toutes les portes et le lendemain, il gagne.
Un homme de réseau.
Un homme de réseau. C'est un homme de réseau, c'est un homme de lobbying, c'est un homme de contact et c'est un homme de pouvoir. Il voulait le pouvoir. Et c'est vrai que Michel Denisot a un petit côté si vous voulez que je sois président, bah votez pour moi, mais je me battrai pas, etc. 75 ans, 49 ans. Labrune, ça joue aussi. C'est un président et je suis assez d'accord. C'est un politique et on disait il ménage la chèvre et le chou. Il pense déjà à dans 4 ans sa réélection. Ça va être sa seule obsession. Déjà. Ah bah c'est sa seule obsession, c'est d'être président.
Oui mais avec. Alors, attendez.
Il a dans la vie, mais je respecte totalement. Labrune a une seule mission dans la vie. Il est pénétré par l'idée d'être président. Président de Marseille, président de la Ligue. Je peux vous dire que dans 4 ans
vous
déjà.
De pétanque ainsi vous.
Alors il n'y a pas une chose qui vous a étonné avant cette élection. Deux choses même qui ne vous ont pas étonné avant cette élection. Oh. C'est qu'on a appris. Non, vous me voyez venir. On a appris que finalement Vincent Labrune se déclarait quelques heures simplement avant
officiellement. Pas étonnant parce qu'il a fait son travail en douce. Enfin, on le sait. J'ai discuté avec d'autres personnes qui m'ont dit. De toute façon, on les croyait déjà disparus du milieu du football. En fait, la réalité.
Ça ne vous étonne pas.
Non, mais la réalité, c'est que la Brune.
Il y a une deuxième question, Cindy.
Oui.
C'est le programme. Avec quel programme? C'est-à-dire que Vincent Labrune est élu, effectivement, et assez confortablement avec, non pas le football d'en bas, mais enfin une partie du football d'en bas, avec aussi les entraîneurs, avec aussi la famille des joueurs, avec la famille des éducateurs, etc. Mais sur quelle base programmatique?
Depuis quand il fait un programme pour être élu président?
Exactement ça, le président de la Ligue, il n'est pas là pour appliquer un programme, c'est pas un homme puissant qui va imposer au club sa vision des choses, c'est tout le contraire. Pourquoi est-ce que lors de la précédente élection...
Mais ça va être prévu aussi, parce que déjà dans les anciens, on voyait qu'entre Kyo et Bois de la Tour, on savait parfois qui c'est qui menait
c'est
la danse.
Mais c'est le but du jeu.
Et donc
en mettant un DG fort, Didier Kyo, aux côtés de Nathalie Bois de la Tour, c'était justement pour opérer, pour institutionnaliser la division quelque part. Faire en sorte qu'on puisse diluer le pouvoir.
Et quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, il y a eu effectivement, sinon quelques frictions, parfois quelques incompréhensions entre la présidente et le directeur général exécutif. Mais franchement, si vous me demandez mon avis, puisque vous ne me le demandez pas, je vous le donne.
Christian, on aimerait avoir votre avis.
Dans cette période de crise assez inattendue, dramatique quand même, où il y a eu des morts, enfin quand même, je trouve que la Ligue du football professionnel peut présenter, avec Bois de la Tour et Kyo, un bilan tout à fait honorable.
En fait, par rapport au contexte qu'ils ont vécu, parce qu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme cacophonie, mais qui ne dépend pas forcément ces personnes-là, mais aussi dans l'organisation de cette instance avec beaucoup de structures. Et je pense que c'est pour ça que de plus en plus, les LFP essayent d'aller vers cela, vers l'effet de créer une structure un peu plus, qui soit différente, en tout cas, arranger tous ces problèmes-là qui sont survenus.
Gilles Verrez. Le bilan d'une présidence avec une direction générale se juge quand même sur l'héritage. Et là, l'héritage de Mme Bois de la Tour et de M. Kyo, c'est... je ne suis pas d'accord. C'est la division. Et c'est du coup d'élire un président qui est le président du dépit. Parce qu'effectivement, Labrune, il a été élu. Il n'a pas de programme, mais il ne fallait surtout pas qu'il ait de programme. C'est pour ça qu'il a été élu. S'il avait eu un programme, il aurait été balayé.
Enfin, la division n'incombe pas à Bois de la Tour et
Kyo. Même.
Et surtout, Bois de la Tour et Kyo ont ramené plus d'un milliard.
Oui, d'accord.
C'est le vrai fait d'armes. Voilà,
bon. D'accord. Donc à ce moment-là, vous êtes de ceux qui pensent qu'on fait le bilan financier. Je respecte totalement, mais on fait le bilan financier, on fait un graphique, et s'il y a de l'argent dans les caisses, c'est une bonne présidence.
C'est une bonne présidence.
Ah si vous voulez, mais bon, elle n'a duré qu'un temps d'ailleurs.
4 ans.
Très vite, oui. Ben oui, c'est le temps du mandat. Je veux bien, mais au bout de 4 ans, on s'est dit, il en faut un autre. Et c'est quand même sur fond d'une division incommensurable du football français.
Non, ce qui est certain, c'est que effectivement, non seulement ils ont été chercher, et notamment Didier Quillo, cet énorme contrat, mais surtout ils l'ont sécurisé, parce que c'était pas évident au moment de la crise, et on était dans un conflit ouvert avec les diffuseurs actuels Canal et beIN, qui de toute façon ne pouvaient que mal se terminer. Et donc la solution la plus rationnelle, qui plaît certainement pas à ceux qui ne pensent qu'au sport, et on devrait ne penser qu'au sport, mais le fait est que c'est pas possible, c'était effectivement de prendre la décision qui a été prise, c'est-à-dire d'arrêter le championnat pour sécuriser celui d'après. Ça, c'est ce qu'ils ont fait, c'était un choix, c'était un choix fort. Maintenant, on peut quand même regretter aussi, parce qu'il y a du positif et il y a du négatif, c'est que le poids, l'influence de la Ligue par rapport aux politiques pour essayer de maintenir le football en vie a été proche de zéro. Et à l'époque, par exemple,
Frédéric
Thirier, qui avait un carnet d'adresses peut-être un petit peu plus fourni au niveau politique, le football aurait peut-être été un peu plus entendu dans les hautes sphères.
Je vous propose de tourner une page de publicité. On parlera des hommes également. Car je vous rappelle quand même qu'à une époque, Jean-Michel Aulas...
Parce que des femmes, il n'y en a pas. Donc on va parler des hommes.
Il n'y a pas de femmes.
Il n'y a
pas
de femmes.
Il y a juste la Brune pour faire genre, il y a une femme, il n'y en a pas. Peut-être les noms du...
Donc on va parler des hommes. Parce que je vous rappelle quand même que la Brune a été traitée de guignol par Jean-Michel Aulas, et que Noël Le Graët trouve le résultat d'élection.
Souvent, c'est une marque d'affection.
Bizarre. Allez, page de publicité. Derrière la publicité, les réseaux sociaux également, émission 100% interactive. Vos messages sur le compte @RTLFoot. Nous prendrons également des nouvelles du match Montpellier-Nice. Nous sommes dans le temps additionnel. Montpellier mène toujours sur le score de 3-1. Et Leeds a égalisé sur la pelouse de Liverpool. Le Leeds de Marcelo Bielsa. Un but partout entre les deux équipes. A tout de suite.
RTL, on refait le match. Tour de France 2020.
Le prix Antargaz de la combativité. Pour la 14e étape du Tour de France 2020 reliant Clermont-Ferrand à Lyon, le prix Antargaz de la combativité a été décerné au coureur suisse Stéphane Küng de la formation Groupama FDJ. Bravo à lui.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
18h50 à 20h, RTL Foot, avec notamment les préparatifs du match du soir qui opposera
Strasbourg
à Saint-Étienne. Ouais. Nous aurons l'occasion peut-être d'en reparler. Match terminé entre Montpellier et Nice, ou quand le leader Nice s'incline face au 15e Montpellier.
C'est bien ça, Eric, match Martin. Terminé à l'instant ici à la Mosson, 3-1.
Je plaisantais.
Belle victoire, belle victoire des Montpelliérains qui ont globalement bien maîtrisé leur sujet pendant 70 minutes. 3 buts quasiment en première période. Laborde et Congrès. Congrès qui a récidivé à la 60e minute de jeu, 3 buts à 0 donc pour Montpellier. Les Montpelliérains se sont fait peur à la 70e minute de jeu. C'est plutôt Nice qui a mis plus d'agressivité dans le jeu, et c'est Dante qui a repris d'une tête rageuse un beau centre de Gouiri. Dolberg a failli même marquer un deuxième but pour les Niçois, mais les Montpellierains qui ont bien défendu ensuite les 10 dernières minutes, et ils ont pu tenir ce score de 3-1. Première victoire pour Montpellier et première défaite pour Nice.
Merci Eric Martin, bonne soirée. Bon, c'est un match de début de saison.
Voilà, un beau match. Non, un beau match. Le jour où Montpellier sera capable de rééditer ce genre de performance à l'extérieur, ce sera une équipe qui sera redoutable dans la course à l'Europe, dans les toutes premières places. Parce que quand ils jouent comme ça à domicile, avec Delors, avec Laborde, avec Savanier, qui est quand même un joueur extraordinaire.
Ah, TJ.
C'est formidable. Ouais.
Mais faut pas oublier que si le classement avait été arrêté une journée plus tôt ou plus tard, Montpellier sera en Ligue Europa cette année. C'est une équipe qui est devenue extrêmement solide, avec Darzakarian, dont on souligne pas assez souvent le bon boulot à Montpellier.
Gilles Verdez.
Et le jour où Nice aura un mental, ça se saura. Le jour où ils seront capables de se déplacer sans se liquéfier face à une adversité de qualité, mais c'est quand même incroyable, quoi. Bon. Les entraîneurs passent et Nice à l'extérieur, c'est une calamité.
Ah bah pour l'instant, Vieira reste lui. Hein.
Et oui, ah bah, il, oui, oui.
Ce sera,
oui.
Non, mais ce sera sans doute, c'est la saison déterminante pour lui. Hein.
Absolument.
Et là, casse, parce que précédemment, ça n'a pas été non plus.
Le projet se met en place, ouais. Gentiment. Disons qu'il n'explose pas les compteurs. Quoi.
C'est déjà un coup d'arrêt, là, quand même.
Oui, bien sûr.
Liverpool ajoute un deuxième but
Van Dijk.
Grâce au poète.
On pouvait s'y attendre.
Ah non, Van Dijk qui marque.
Van Dijk, tête.
Ah, je crois que c'était Virgil qui. 2-1 pour Liverpool face à l'équipe de Leeds après 22 minutes de jeu. Les amis, Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Florian Gazan et Philippe Sansfourche, Vincent Labrune face à Jean-Michel Aulas, voilà qui nous promet quand même quelques belles joutes. On se souvient qu'il y a plus de 2 ans, il y avait eu un problème, largement plus de 2 ans.
Plus que ça, oui.
Il y a près de 4 ans, d'ailleurs. Ouais. Jean-Michel Aulas avait carrément traité Vincent Labrune de guignol et lui avait promis un avenir, en substance, plus ou moins bouché dans le football français. Ça l'a un peu contredit, finalement. Mais on attend maintenant le duel Aulas-Labrune, non ?
Après, c'était un contexte aussi, c'était le contexte d'un match entre l'OM, l'OL. Là, je pense que Aulas, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, Jean-Michel Aulas, il y aura forcément toujours des choses à dire. C'est du pain béni pour nous, finalement, parce qu'il va y avoir effectivement une ambiance entre Labrune et Jean-Michel Aulas où il y a déjà un précédent. Mais après, je pense qu'il va quand même savoir faire la part des choses. Maintenant, il est dans un autre rôle. Ce n'est plus exactement la même chose. Et puis, il arrive aussi dans une situation un peu complexe. Comme il disait justement Jean-Michel Aulas, il faudrait un peu d'humilité de sa part, parce qu'il n'a pas été non plus élu d'une façon très positive.
C'est pas un contexte et c'est pas l'histoire d'un match. C'est une détestation interpersonnelle. il faut le dire.
Comme avec beaucoup des personnes, en fait.
En tout cas, ils ne peuvent pas se supporter. Aulas Labrune, c'est pareil avec Noël Le Graët. Quand Noël Le Graët dit oui, il a sans doute quelques amis. Ça veut dire qu'il a été, dans l'esprit de Le Graët, il a été élu par une clique de petits clubs en rébellion, mais il n'a pas de projet, il n'a pas de charisme, etc.
C'est les propos du président de la 3F sont assez curieux, parce qu'il a été élu par des amis. Par définition, vous n'êtes pas élu par vos ennemis. Et puis la deuxième chose, c'est que quand il dit les résultats sont un peu bizarres.
Il ne pouvait pas dire plus, Noël Le Graët. C'est parce qu'en termes de voix, c'est comme aux États-Unis, en termes de voix, de pourcentage,
les grands électeurs.
Donc voilà, donc Le Graët s'en sort comme il peut. Il ne peut pas déballer plus qu'il ne le fait. Mais pour que le président de la Fédé dise ça juste après l'élection, c'est qu'il en a gros sur le cœur.
Après, j'en ai discuté quand même avec d'autres personnes du milieu, juste pour voir un peu les contextes avec Labrune, parce que c'est vrai que c'est quand même assez curieux. Et puis finalement, ce n'est pas aussi difficile qu'on peut s'imaginer ou qu'on essaye de nous faire croire. Il y a aussi Cayasso qui est là, qui lui donne une amie. Enfin,
c'est surtout Aulas. On parle d'Aulas, là. C'est
juste Aulas.
Aulas qui, à la sortie de l'élection, dit certain, je n'oublie jamais, moi. Hein. Je suis ouvert aux compétences, mais je n'oublie jamais.
Vous aurez noté quand même que Jean-Michel Aulas ne s'est même pas présenté pour être élu au conseil d'administration. Alors il nous a fait une interview formidable pour nous expliquer que c'était mieux à la Fédé parce que l'ambiance était plus sympa. Que,
les petits fours étaient meilleurs. Ouais.
En gros, ce qui est très clair, c'est que lui aussi, lui, il a au moins eu le nez de sentir qu'il fallait pas y aller parce qu'il y avait de fortes chances qu'il soit, et ça aurait été un camouflet terrible d'être parmi les deux qui auraient été évincés à la place de Petrov, ou ça aurait été terrible pour Jean-Michel Aulas. Le fait est quand même que sur les derniers mois, il a été très présent, mais il a eu que des échecs, que des revers sur le plan, pas sur le plan sportif, puisque Lyon a été assez formidable au Final Eight, mais sur le plan des instances, sur le plan de toutes ces batailles juridiques en interne face aux instances sportives ou même plus haut, il n'a eu que des échecs. Et quand on voit ça et qu'on voit aussi que Noël Le Graët, on verra, le suspense perdure, mais c'est quand même un homme qui commence à être un peu fatigué et qui se pose lui-même la question de savoir s'il a la capacité sur 4 ans de pouvoir rempiler.
Est-ce que ce n'est pas annonciateur d'ailleurs?
Vincent Labrune arrive peut-être à un moment charnière de l'histoire du foot français où il peut prendre la main. Il peut avoir en tout cas beaucoup plus d'influence que la Ligue ne l'en avait jusqu'à présent.
Même si les supporters marseillais ne conservent pas un souvenir impérissable de Vincent Labrune.
Ouais. Ceci dit, quand on fait le bilan de sa présidence, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Il ne faut pas non plus exagérer sur Vincent Labrune, mais ce n'est pas le sujet. Finalement, le pauvre Michel Denisot, il n'a pas eu de bol, il a été soutenu par les deux personnes qui ont énervé le plus le foot français pendant cette crise du Covid. Jean-Michel Aulas, il s'est mis tout le monde à dos avec ses prises de position. Noël Le Graët, mine de rien, avec son côté c'est moi le chef, c'est moi le patron, mes coupes, etc. Lui aussi, quelque part, il n'a pas fait preuve de beaucoup de diplomatie avec les présidents de club. Donc, quelque part, c'était une forme de rébellion. Et à l'opposé, Vincent Labrune, lui, est très proche de ces présidents-là. On sait qu'il est dans le foot depuis des années maintenant, qui fait un peu facilitateur de transfert entre certains club, etc. Donc lui, au contraire, il a su se les mettre dans la poche.
Allez, on va arrêter là, Gilles. On va arrêter là. Simplement, il faut répondre à la question. Vincent Labrune, nouveau patron de la LFP, faut-il parler de dégagisme ou est-ce une sorte de gilet jaunisation du football français?
Mais gilet jaunisation, c'est ce que j'allais dire. Les gilets jaunes, en fait, c'est le pouvoir d'en bas. Ils ne veulent plus que ça vienne d'en haut, ils veulent changer l'ordre des choses. Ben c'est ça, c'est ce qui se passe.
Florian Gazan?
Pas vraiment, parce que les gilets jaunes n'ont pas de patron, ce qui est un peu le problème des gilets jaunes.
Philippe Sanfourche?
Non, moi, les présidents dont on parle, ils n'ont pas de problème de fin de mois.
C'est Nicolas Ménares?
Moi, je trouve qu'il faut se focaliser sur l'autre chose, sur les problèmes structurels là, actuellement, parce qu'on a vu très peu de dérogations finalement pour les foot français par rapport aux 5000 supporters qui peuvent rentrer. Et on est en train de se poser d'autres questions.
On va en parler justement.
C'est inquiétant.
Les jauges à 5000. Sur les réseaux sociaux, émission 100% interactive. En régie, j'aperçois Baptiste Durieux.
Oui, Christian, beaucoup de réactions évidemment, comme Roger, que les Parisiens et les Lyonnais se rassurent. Vincent Labrune ne fera aucun cadeau à l'OM. Il nous déteste. On lui rend au centuple. Sympathique. Message de Zach. Vincent Labrune, pire dirigeant dans l'histoire de l'OM. Désigné pour redresser un foot français boiteux et agonisant, cela relève effectivement du bon sens, message de Maxime, règle numéro 1 dans le foot français, ne jamais sous-estimer Vincent Labrune. Message de Pierre également, il a toujours eu l'oreille des puissants, mais parviendra-t-il à avoir celle des présidents qui ont zéro solidarité entre eux? Bon courage Vincent. Et puis message un peu humoristique de Tristan, mon petit doigt me dit que Lyon aura beaucoup moins de pénaltys cette saison.
À suivre. Oh là, procès d'intention. On ne rentrera pas dans ce débat immédiatement. 18h58. On va attendre le premier match. 18h58, page de pub, information 19h et derrière 19h, PSG Marseille avec cette question dans le contexte Covid sans public, avec des absents probables ou des titulaires qui ne seront pas alignés. Le classique est-il un match désormais, PSG Marseille? Un match comme un autre. À tout de suite.
RTL Foot.
Information de 19h. Aude Vernicchio, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Jean Castex sort de sa quarantaine. Le Premier ministre a été testé négatif au coronavirus après 7 jours d'isolement, indique ce soir Matignon. Il avait été en cuit testé positif. La course mondiale au vaccin se poursuit. AstraZeneca reprend ses essais sur l'homme au Royaume-Uni. Le laboratoire avait dû stopper la phase 3 avec l'apparition d'une mystérieuse maladie sur un patient. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 35 vaccins candidats sont en cours de test. Le cortège n'était pas jaune criard dans les rues. Après une longue pause, les gilets jaunes avaient appelé au rassemblement partout en France, à Marseille, Lyon, Bordeaux et Paris. Manifestation émaillée dans la capitale par quelques heures dans le 17e arrondissement. 256 personnes ont été interpellées et 90 autres verbalisées selon la préfecture de police. Un avion de tourisme s'est écrasé ce matin dans le massif de Belledonne en Isère. L'avion était parti de l'aérodrome du Versou à quelques kilomètres du lieu de l'accident. Il y avait 3 personnes à bord. Aucun n'aurait survécu. La 14e étape du Tour de France, remportée par le Danois Søren Kragh Andersen à Lyon. Le Slovène Primoz Roglic a revêtu son 6e maillot jaune. Sam Bennett remporte le maillot vert en présence de Grégory Doucet, le maire de Lyon, qui avait il y a quelques jours critiqué la grande boucle et qu'il a qualifiée de machiste et polluante. En football, la suite de la 3e journée de Ligue 1, Montpellier s'est imposé 3-1 face à l'OGC Nice. Ce soir, ne manquez pas Saint-Étienne-Strasbourg, coup d'envoi à 21h. Et puis, bonne nouvelle pour le classico PSG-OM, ce sera demain. La star brésilienne Neymar est de retour à l'entraînement, guéri du Covid-19. Keylor Navas, Angel Di Maria et Leandro Paredes seront également disponibles pour la rencontre. La météo de demain, dimanche gris en matinée, quelques brouillard au réveil du Finistère jusqu'aux Hauts-de-France, puis plein soleil toute la journée. Seules les Alpes du Nord pourront subir une petite averse orageuse en fin d'après-midi. Côté température, comptez de 7 à 22 degrés le matin, de 21 à 36 degrés l'après-midi. Dans le détail, 21 à Boulogne-sur-Mer, 26 à Lille, 28 à Beauvais, 30 à Paris et à Nice, 32 à Besançon, 35 à Bordeaux et 36 à Mont-de-Marsan. Et puis les courses, elles auront lieu demain à Longchamp. Attention, le 16 est non partant. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 12, le 14, le 10, le 4, le 6, le 7, le 5, le 9 et sa dernière minute, le 6 d'Arc American. RTL, il est 19h03. Tout de suite, on refait le match. Continue avec vous, Christian Olivier.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On refait le match ce soir en compagnie de Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Florian Gazan et Philippe Sansfourche. Une demi-heure à parler de la Ligue du football professionnel, de l'institutionnel entre guillemets, de l'élection de Vincent Labrune à la tête de la LFP, Ligue du football professionnel. Deuxième demi-heure désormais consacrée aux choses du terrain, mais pas seulement, au match en tous les cas qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille demain soir, 21h, retransmission intégrale sur l'antenne de RTL. Et cette question, dans le contexte de Covid, madame, messieurs, sans public, enfin sans public ou presque, hein, même pas 5000 spectateurs d'ailleurs, on en parlera, mais avec des absents probables ou des gens pas tout à fait titulaires, est-ce que ce classique est un match comme un autre?
Ça dépend de nous.
Pardon?
Ça dépend de nous. En fait, pourquoi? Parce que je considère qu'en ces moments, c'est la bonne excuse qui est de dire il y a des joueurs blessés ou il y a des joueurs qui ont eu les Covid, donc ils sont un peu affaiblis, donc ils ne sont pas à son niveau. Et tout ça est certes vrai et réel. Mais quoi qu'il advienne et quoi qu'il soit les résultats de cet affrontement qu'il y aura entre l'OM et les PSG, il faudrait absolument qu'on se dise que ça reflète vraiment la Ligue 1 actuellement.
Oui, mais faudrait ça arrêter. Fait... pas vraiment la Ligue 1, c'est bien l'objet de la question.
Non, mais rien ne reflète la Ligue 1 en ce moment, de toute façon, avec cette situation un petit peu compliquée. Les
mais là, on
sont,
peut aller jusqu'à la fin de l'année et dire la même chose, parce que peut-être que même jusqu'en
mais
décembre,
on est là pour ça, sera... tous les samedis soirs.
Oui, on sera peut-être sur les mêmes contextes, un peu difficiles,
oui.
Sans public, comme on est en train de voir aussi en Angleterre, où il y a pas mal de difficultés, parce qu'il n'y a pas de public. Donc je pense que OM, PSG, ça reste tout de même, toujours un classique, fort, où il y aura, on l'a vu avec Payet et les commentaires qu'il a sortis sur les réseaux sociaux.
On y reviendra également. Mais les choses du terrain d'abord. Neymar, Navas, Paredes et Di Maria seront dans le groupe. Sont dans le groupe, Philippe.
Oui, ils sont dans le groupe. Alors, ça ne veut pas non plus dire qu'ils peuvent débuter, qu'ils sont tous à 100%. On parle de joueurs qui ont une, voire deux séances d'entraînement. Ce n'est pas du tout les conditions exceptionnelles pour démarrer. Imaginez 30 secondes que Tourelle décide de mettre tout le monde et qu'au bout d'un quart d'heure, vous avez Neymar sur le flanc avec 6 mois d'indisponibilité parce qu'il va se faire découper en rondelles.
Dans le groupe, on a précisé.
Donc, ils sont dans le groupe. C'est quand même mieux que les conditions dans lesquelles il a dû aller à Lens. Mais c'est vrai quand même que quand on fait le cumul de tout, de ce championnat qui reprend avec tous ces cas de Covid, du PSG qui, quoi qu'on en dise, qu'on soit d'accord avec les reports ou qu'on soit pas d'accord, forcément il y a une phase de décompression derrière l'histoire de la Ligue des Champions, ils sont pas au top. Et programmer ce match-là dès la 3e journée, on sait pourquoi, c'est très clair, il y a un nouveau diffuseur, il faut des abonnés, donc il faut faire
toute la grosse affiche. Ouais.
Mais voilà, c'est quand même pas idéal, on aurait préféré l'avoir au mois de novembre.
C'est le seul vrai match. Le reste, ce sont des aimables plaisanteries pour meubler nos débats de temps en temps. Mais c'est le seul vrai match, PSG-OM ou MPSG. Oh, c'est le seul vrai match depuis les années 90.
Après,
si vous voulez, allez, je vous accorde Lyon-Saint-Etienne.
Non,
m'intéresse pas. C'est-à-dire que ça ne me passionne pas autant. Là, je suis excité 8 jours avant, excité pendant, surexcité.
Moi, j'étais excité pour l'OL. C'est quand même des finalistes.
Non, Monaco, si vous voulez, quand ils jouent bien. Lyon-Saint-Etienne, oui, mais non, mais c'est le seul vrai match. Saint-Etienne-PSG, PSG,
pour moi, le seul vrai match aujourd'hui, c'est Lyon-Marseille, parce que c'est les deux Olympiques, c'est deux équipes qui à peu près se valent en termes de niveau. Là, on sait très bien que l'écart il est énorme. Alors évidemment,
deux équipes qui se valent en termes de niveau,
en termes de résultats. Non, mais tu peux pas dire qu'il y a un des deux Olympiques qui surdomine l'autre.
Qui vient de faire une demi-finale de Ligue des Champions. Non, certes, une année.
Je te parle
spécifique.
En Ligue 1, Philippe, sur leurs affrontements.
D'accord.
Les Olympicos, parce que maintenant tout est ICO. Alors, le Bretonico,
Classico ici sur RTL n'existe plus. On a posé la question aux Français. Les Français ont tranché avec nos amis de Doxa sur la thématique. Plusieurs joueurs seront absents, testés positifs, absents ou diminués, ou dans le groupe mais pas titulaires. Donc nous sommes absolument raccord avec l'actualité de demain soir au Parc des Princes. Et la question a été la suivante. Selon vous, le match entre les deux clubs aura-t-il toujours un intérêt en l'absence de ses stars? Pour les amateurs de foot, oui. À 73%.
Bien sûr.
Pour les amateurs de foot. Un peu moins pour les Français, 64%. Mais pour les amateurs, 73%.
C'est très attendu. C'est très attendu.
Philippe Sanfourche.
En revanche, quand on regarde également, on ne va pas faire tous les chiffres, mais si on demande, aux amateurs
deuxième
de foot,
feuille. Ne se prononce pas.
Est-ce qu'ils considèrent que ils attendent ce match parce qu'il a une odeur spécifique? Mais est-ce que l'OM est toujours le rival numéro 1 du Paris Saint-Germain dans ce championnat? La réponse est non, en grande majorité. C'est effectivement l'Olympique Lyonnais qui arrive très, très loin devant.
Vous-même, qui préférez-vous entre le PSG et l'OM? Excuse-moi Gilles, pour les Français, le Paris Saint-Germain est préféré à 50% quand même par rapport au Marseillais. 50%. Et pour les amateurs de foot, c'est à 55%.
Et ce qui est surtout très intéressant et ce qui n'est pas très étonnant, c'est l'énorme fossé générationnel. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'OM reste le club préféré des plus de 65 ans. En revanche, quand on regarde dans la catégorie des 15-25 ans, des jeunes qui commencent à aller au stade, là, c'est à 70% le PSG. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de match, ça n'existe plus. Ce qui est logique par rapport au résultat.
Mais sur le plan du terrain, je suis d'accord avec Philippe, sur le plan du terrain, ça fait depuis 2011, je crois, que Marseille bat plus le PSG. Donc le fossé est énorme. Mais si on parle de passion, d'engouement, d'intérêt, c'est le match qui déchaîne les passions du football français. Tous les titres de Lyon, excusez-moi, mais tous les titres de Lyon, merveilleux footballistiquement, ils n'auront jamais la même saveur qu'un PSG-OM. Voilà.
C'est votre prisme un peu parisien, là, Gilles Vernès. Franchement,
non,
là,
pas du tout.
Non, faut sortir.
Pas du tout le prisme parisien.
Je
vous parle de PSG-OM, je vous parle pas de Paris.
Moi,
hein.
Je trouve que le fait que l'OM ne l'ait plus emporté depuis 9 ans, ce qui est quand même gigantesque, et qu'il y ait toujours autant d'engouement autour de cette rencontre, c'est la preuve à tous ceux qui nous expliquent que c'est un truc qui a été inventé, un machin marketing. Forcément, le PSG a 50 ans, donc c'est pas une affiche qui peut avoir 100 ans déjà.
C'est une réalité, ça a été inventé. C'est le classico.
Ça a été un tout petit peu mis. Ça a été un peu boosté, mais le terreau était tellement favorable. Il y a toutes les composantes de la rivalité, le nord, le sud, la capitale.
La Provence.
Il y a tout. Donc c'est forcément une affiche qui est très
importante. Et de plus en plus, moi j'apprécie qu'il y ait ces chamblages qui existent entre les joueurs du PSG,
on va y venir, notamment
et de l'OM. Parce que c'est ça aussi qui fait qu'on peut parler des classiques et qu'on peut parler d'encore une rivalité qui existe, même si certains essayent de les nier.
Et toujours avec nos amis de Doxa, 50% des amateurs de football, je focalise vraiment là sur les amateurs de football, pensent que le Paris Saint-Germain va l'emporter. Donc ça veut dire que...
Que 50 finalement.
Non, parce que pour l'OM, c'est 20%, match nul 29%. Hein, 1% de ce point.
Et bien pourtant, les PSG n'ont pas été super brillants, qu'on se les dise, contre Lens, ils ont fait un
contre Lens, c'était pas le PSG, c'était des mecs avec le maillot du PSG. Hein.
Effectivement, il y a eu une autre équipe. On va avoir quand même des joueurs qui reviennent. Donc peut-être Di Maria, Neymar, enfin en tout cas il y aura Draxler pour venir les s'appuyer, donc oui il y aura une différence.
Vous me tendez une perche, Cindy, à Lens, Thomas Tuchel à la fin du match, mais totalement désabusé.
Je trouvais très lucide par rapport à ce qu'on a vu.
Ils perdent 1-0 sur une boulette et ils perdent le match alors qu'ils ont 79% de possession de balle.
Mais pas une occasion.
Écoutez, ces deux premières minutes d'intervention, ça ne voulait strictement rien dire.
Oui, mais
on avait l'impression qu'il est dans les deux premières minutes de sa conférence de presse, on avait l'impression qu'il avait perdu le fil.
Oui, mais c'est aussi un message passé à ses dirigeants. C'est deux minutes pour leur dire, regardez le match, avec ces joueurs-là, on n'ira pas loin, il me faut des renforts, donnez-moi des renforts. C'est un subliminal message adressé à Leonardo, renforcer, achetons, sinon on n'ira pas loin. Et même, c'est quasiment presque de la provocation, quand il met des six jeunes ou quand il met des joueurs aux mauvaises places à Lens, alors qu'il sait que ça ne comptera pas, puisque, sauf drame, ils seront champions, c'est pour dire à Leonardo, regarde ce que j'ai sous la main, ça ne va pas.
Et il a entendu, parce que Florenzi, du coup, vient d'arriver à latéral droit, donc elle avait besoin, parce qu'on sait qu'après les départs des Meuniers. Appeler les départs des Meuniers, il n'y avait pas des remplaçants.
C'est la nouvelle star du Paris Saint-Germain qui a du mal à se remettre d'une blessure et d'une opération.
Depuis 2017, il fallait bien quelqu'un qui vienne remplacer Meunier. Et de toute façon, les problèmes du PSG, il est beaucoup plus profond. Depuis les départs qu'il y en a eu des Mota, le PSG n'a pas réussi à créer ces milieux, donc il a tombé soin. Donc il y a ces choses-là, effectivement, qui jouent.
Florian Gazan, et ensuite on va tourner une page de publicité, on va parler Ligue 2 derrière PSG Marseille, et on reviendra derrière la Ligue 2 avec le chambrage notamment entre Parisiens et Marseillais. Florian.
Non mais ce match reste évidemment capital parce que c'est les deux équipes dont les supporters sont les plus, je dirais, virulents, vivants, et que voilà, ça montre aussi ce match que le supporterisme est très important en France, et c'est pour ça qu'il faut absolument que les supporters reviennent vite dans les stades.
Publicité à 19h15 et ensuite vos messages sur les réseaux sociaux, le compte Twitter @RTLFoot bien évidemment, et on reviendra sur ce match PSG Marseille à suivre demain 20h-23h sur l'antenne de RTL dans le contexte Covid, etc., etc., sans public ou presque. Ce classique est-il un match comme un autre pour vous via nos amis de Doxa? Oui, mais il y a un peu de débat quand même dans ce studio. 19h16, publicité.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match avec Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Florian Gazan, Philippe Sanfourche. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. À 19h30, on parlera des supporters. Et à 19h45, on parlera des tirs au but, évidemment. On verra qui a les jambes qui tremblent ou qui a le moral. Puis à 20h, 23h, RTL Foot avec toute l'équipe d'Éric Silvestro. Les réseaux sociaux, émission 100% interactive sur ce Marseille-Paris Saint-Germain qui aura lieu au Parc des Princes. Est-il un match comme un autre ou est-il un vrai classique, Baptiste Durieux?
Un vrai classique pour les auditeurs. William qui nous dit: peu importe les joueurs sur la pelouse, vous pourriez même mettre des rugbymen, des joueurs de golf, l'affiche reste la même et l'enjeu ne change pas. Message d'Etienne qui est pro-parisien pour le coup. Si tout se passe bien, Alessandro Florenzi sera titulaire, il est optimiste. Le Neymar, Di Maria, Paredes et Navas seront de retour. Avec tout ça, le classique sera calme et tranquille, entre parenthèses 4-0 à la mi-temps, nous dit Etienne. Message d'Edouard: les supporters parisiens qui se plaignent de la compo, mais où étiez-vous quand Manchester United avait une équipe Z face à vous? Les petits souvenirs de Ligue des Champions. Et puis message de Dimitri: vous savez comme moi que si victoire de l'OM il y a, les Champs-Elysées vont se transformer en canebière géante et ce sera feu d'artifice sur le Vieux-Port, donc évidemment que ce match est toujours très particulier.
C'est Dimitri Payet qui est Dimitri tout court.
Alors justement, à propos du chambrage, il y a Thomas Tuchel en conférence de presse qui déplorait que lorsque les gens fêtent ou sont heureux de la défaite d'une équipe, c'est qu'eux-mêmes n'ont plus rien à fêter.
Oui, il s'est retenu, au début il voulait rien dire. Il avait un peu botté en touche sur la question, sur la provoque. Puis il y a une autre question qui lui est posée. Et là, en fait, avant de répondre à cette nouvelle question, il dit: bon, quand même, je voulais dire, quand on se permet de chambrer, de célébrer une défaite des autres, c'est qu'on a soi-même pas grand-chose à célébrer.
Au lendemain de la finale de Ligue des Champions, Gilles Verdez.
C'est drôle ce qu'a fait Payet. Moi, j'aime bien, c'est le joueur.
Il faut le rappeler. Hein. Sur les réseaux sociaux.
Oui, il avait fait un...
On voit un maillot du PSG avec une étoile, comme si le PSG allait gagner la Ligue des Champions. Et hop, il fait glisser le maillot avec l'étoile. Ouais. Et apparaît le maillot de l'Olympique de Marseille avec la véritable étoile. Puisque Marseille, qu'on le veuille ou non, est toujours quand même le seul club français à avoir remporté la Coupe d'Europe.
Oui, d'ailleurs, l'étoile, d'ailleurs, ne symbolise absolument pas ça sur un maillot. Ça, c'est un autre débat. Cette histoire d'étoile, c'est absolument pas du tout victoire en Ligue des Champions.
C'est comme ça que tout le monde l'a interprété.
Oui, non, mais je veux dire par là que déjà, c'est une utilisation abusive de cette étoile depuis des années. Mais ça, c'était une parenthèse.
Et le chambrage vous plaît, Gilles Verdez?
Moi, j'aime bien, mais c'est de la part de Payet, c'est une véritable erreur stratégique. Moi, je trouve ça drôle. Parce que pourquoi vous croyez que Tuchel, là, ramène Neymar, qui est encore sur une jambe, à peine rétabli? Pourquoi il va faire jouer tout le monde? Pourquoi il a réagi, comme disait Philippe, en conférence de presse? Parce que ce match est unique et parce que le PSG, qui a perdu à Lens, ne peut pas perdre contre Marseille. Le PSG doit battre Marseille. Ils seront champions quand même s'ils font match nul. Mais Tuchel a été surmotivé par Payet. C'est comme quand Arthur Georges, dans les années 90, qui entraînait le PSG, avait dit « on va leur marcher dessus ». Le PSG s'était fait exploser par Marseille. Donc Payet, il a survolté le PSG et il va le payer.
Et il ne regrette pas ses propos, ah bah Payet. Il l'a dit en conférence de presse, d'ailleurs.
Mais non,
cette
mais de toute façon, pourquoi Payet... Mais pourquoi... Oui, effectivement, pourquoi il regretterait Payet, souvenez-vous, déjà, de façon, c'est... maintenant, c'est une entreprise de com' permanente vis-à-vis des supporters.
Il a failli venir au PSG, hein, Payet. Hein.
Oui, oui, il y a quelques années. Oui. Bon, à la limite, c'est pas ça qu'on...
Non, mais là, il se positionne pour la précarrière.
Par rapport aux supporters, ça coûte pas grand chose. S'ils perdent, ce sera comme tous les ans. Mmh. Et puis s'ils gagnent, on dira c'est Payet qui a sonné la révolte, la fierté marseillaise. Donc bon, voilà, c'est bon. Il fait de la com.
Après, certains pourront dire que Payet fait un peu, il fait de par procuration, parce que lui, en tout cas, il n'était pas à l'OM quand ils ont gagné la Champions League.
Certains mais anciens moi, l'ont dit, je crois, Eric Dimeco n'a pas du tout apprécié. Hein.
Moi, je...
le comportement, le chambrage de Payet.
Bah oui.
Bah, c'est là qu'on s'y perd, les amis, je veux dire.
Non, mais il s'approprie quelque chose qui n'est pas à lui. Et en gros, le message des anciens, c'est de dire occupe-toi plutôt de faire en sorte de garnir le palmarès de l'OM plutôt que de faire référence à celui que.
Après, bon, encore une fois, on est quand même dans un football un peu pasteurisé. C'est vrai que ce chambrage, finalement, c'est de bonne guerre. Et ça met du piment, ça nous amuse. Il ne faut pas oublier que c'est dans les deux sens. Hein. Quand l'OL avait perdu en Ligue Europa, le compte Twitter du PSG leur avait mis une petite quiche. Donc voilà, ça marche dans les deux sens. Ça fait partie de la tradition. Et finalement, voilà, on va pas. Après, effectivement, que ce soit pas très malin parce que on se doute bien que les joueurs du PSG ils ont pas aimé voilà après alors, chacun communique comme mieux.
Si je suis Thomas Tuchel, je n'affiche pas le chambrage de Payet.
Moi ah bah si mais
non,
si
non,
mais alors
non,
si
non,
il faut au vestiaire je le mets
non, pas celui-ci,
comme
pas
il avait
celui-ci.
Fait tapis avec
pas
les joueurs
mais Giroud le faisait également toutes les semaines pas celui-ci. Moi je mettrais la petite phrase d'André Villas-Boas, c'est un bon moment pour les affronter.
Oui bah pareil voilà
oui mais là c'est le mérite de la franchise, c'est-à-dire que s'il y a un moment dans la saison où c'est mieux pour l'OM d'affronter le PSG, c'est objectivement maintenant. Il est tout
c'est
simplement...
de la com. Marseille tente de se placer globalement sur le terrain de la com. Alors on pourrait dire qu'ils n'ont que ça. Donc ils exploitent à fond le côté provocation. Moi j'ai peur vraiment que Neymar se fâche et mette un doublé à Marseille.
Il y a le droit des supporters parisiens sur la Canebière dimanche soir. Parce que si je vous pose la question, Philippe, avec nos amis de Doxa, préférence entre le PSG et l'OM. Désormais c'est le Paris Saint-Germain hein, qui est le club préféré des Français. À 55% pour les amateurs de football. Ça, c'est. Ah oui. Mais non, mais pendant très longtemps, l'OM a été quand même le club.
Bah oui, c'est une tendance qui s'affirme. Et c'est vrai qu'on parlait des maillots, des ventes de maillots un peu partout en France. Ça fait maintenant 3-4 ans, je crois, que dans toutes les grandes villes françaises, de Strasbourg à Lille, en passant par Nantes, Bordeaux, Marseille et même Marseille, c'est dans les magasins de sport, le maillot du Paris Saint-Germain qui est le plus vendu.
Mais vous envoyez vraiment des gens sur la Canebière avec le maillot de l'Olympique de Marseille ? Vous envoyez beaucoup ?
Bah beaucoup, ça, ils ne se déplacent pas non plus par grappe, mais enfin ça arrive. Et la bascule, ça a été avec Ibrahimovic parce que malgré tout, les Marseillais, les supporters sont des amoureux de football et ils respectent le fait de voir des grands joueurs comme ça, même si ce n'est pas chez eux. Et c'est des joueurs, voilà, Cavani, Ibra, Neymar, c'est sûr que, bon, quand on aime le football, on ne peut qu'être admiratif. Mbappé. Donc Mbappé, donc voilà, donc du coup, c'est vrai que ça a tourné. Et puis c'est générationnel. Les ados, quand c'était la grande période de Lyon, leur club préféré c'était l'OL. Avant c'était l'OM de tapis. Et puis aujourd'hui, le club puissant c'est Paris. Donc les jeunes, bah, pour eux c'est Paris.
Bon, moi je vous donne mon avis. Il y aura un match sans véritable titulaire ou qui entreront en cours de partie. Il y aura à peine 4000 spectateurs au Parc des Princes. C'est pas un match, c'est pas un vrai classique.
C'est le match.
C'est pas un vrai classique.
Mais on est en septembre.
Vous avez une vision très pariso-parisienne.
Mais non,
là,
excusez-moi, mais c'est PSG.
Demandez aux Stéphanois. Demandez aux Lyonnais,
on a une vision pariso-marseillaise.
Mais oui, c'est ça. C'est PSG. Mais je reprends
d'ailleurs,
votre question.
D'ailleurs, le principal rival du Paris Saint-Germain, c'est qui selon vous ?
C'est Marseille. Parce que.
Voilà, regardez, sous les yeux, 48% des Français, c'est l'Olympique Lyonnais.
Mais oui, mais là, vous vous placez sur le pur terrain du rectangle vert. Or PSG-OM, ça dépasse ça. C'est la quintessence du foot français. C'est la passion française, voilà.
Le principal rival du Paris Saint-Germain,
mais
c'est
oui,
bien
si
l'Olympique de Marseille.
Bah,
en tout cas, sportivement, effectivement, comme le dit Gilles, Lyon est devant. Mais demander à un supporter de l'OM ou à un supporter du PSG quel est le match qu'il faut gagner, ou surtout celui qu'il ne faut pas perdre, ils s'en foutent. S'ils perdent un match contre Lyon de temps en temps, ça ne leur fait pas plaisir, mais ce n'est pas très grave. Par contre, perdre le classique, alors là, c'est dramatique. Ça va leur pourrir toute la semaine.
C'est ce que je voulais dire quand je parlais de cette importance du match et du côté capital du match PSG-Marseille. Et les titres de Lyon, les glorieuses épopées de Monaco, ça pèse peu à côté de ce match non pas le classico, c'est, on enlève l'expression, mais le match français.
Bon, on va parler dans quelques instants des supporters de Lens et de Bordeaux, et avec des contestations et des comportements un peu nerveux qui pourraient faire tache d'huile. On en parle dans un instant. Émission 100% interactive, les messages sur le compte @RTLFoot en compagnie de Baptiste Durieux.
L'analyse de Pascal qui nous dit « J'aime le chambrage, même si les Marseillais sont effectivement réduits à se réjouir des problèmes du PSG. C'est important qu'ils l'ouvrent », nous dit Pascal. C'est pour ça qu'on aime le football. C'est comme ça que le football a été construit par la rivalité, et par la haine.
Et il est partout, Baptiste Durieux. Il va nous parler également de la troisième journée du championnat de France de Ligue 2 qui a démarré à 19h.
Absolument, Christian. 7 matchs à l'affiche. 2 buts inscrits pour l'instant par Chambly face à Grenoble, 1-0, et par Caen sur la pelouse de Rodez, 1-0 également, et puis 0-0 sur les autres pelouses. On rappelle les affiches: Amiens, Paris FC, Auxerre, Clermont, Niort, Nancy, Troyes, Pau et Valenciennes contre Châteauroux.
Et cet après-midi, Le Havre est allé gagner à Guingamp sur le score de 3-1. La publicité, 19h28. Et ensuite, un autre débat évidemment sur le comportement à venir des supporters du football français. A tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
En compagnie toujours de Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Florian Gazan, Philippe Sanfourche, 19h30 dans une demi-heure RTL Foot avec toute l'équipe de Silvestro pour le match Strasbourg-Saint-Etienne et ses préparatifs et tous les rendez-vous du samedi soir. Le troisième débat à propos des supporters. Alors là, vous allez peut-être me dire que j'invente un peu, que je précède ce qui ne va peut-être pas se dérouler. Néanmoins, sur les faits, cette semaine, les supporters de Lens PSG disséminés dans le stade Félix Bollaert, qui n'avaient pas vu du football de haut niveau de Ligue 1 depuis des années et des années, hein, s'embrassent, chantent, ne mettent pas le masque, bref, le Covid est oublié. Et hier soir, Bordeaux, là aussi, des supporters à qui on demande de rester assis, qui préfèrent rester debout, qui sont agglutinés, qui encouragent leur équipe, mais qui en même temps également, et en marge de ce comportement un peu de rébellion, continuent de demander la démission. Là, il y a un vrai problème, la démission et le départ de la direction des Girondins de Bordeaux. D'où ma question, les supporters, moi j'ai le sentiment que les supporters, alors qu'on a à peine commencé la troisième journée de Ligue 1, j'ai l'impression que ces supporters sont au bord de la crise de nerfs, car ils sont privés pour la plupart de matchs dans les tribunes, et ceux qui vont dans les tribunes, eh bien, ne respectent pas les gestes barrières et sont montrés du doigt, sont stigmatisés. Est-ce que vous pensez qu'on file du mauvais coton et que on ne risque pas également d'avoir finalement un processus de protocole qui risque de se resserrer dans les prochaines journées? Philippe Sanfourche.
Il faut une vigilance, ça c'est évident, parce que c'est un lieu public et on peut pas s'exonérer de ce qui est le quotidien de tout le monde aujourd'hui. Ce serait pas compréhensible et ce serait pas acceptable. Maintenant, il faut aussi faire preuve d'intelligence, se rappeler que le supporter de foot, il est là pour prendre du plaisir, pour échapper un petit peu au quotidien, la lourdeur du quotidien, et que voilà, on peut accepter qu'il y ait un moment de relâchement. Il faut pas que ce soit institutionnalisé. Il faut pas que y ait, comme je l'ai vu, comme je l'ai lu, notamment du côté de Bordeaux, je crois qu'ils, non seulement ils avouent, mais ils revendiquent presque l'idée de ne pas respecter les gestes barrières en tribune. Ça, c'est pas acceptable. On peut pas dire OK à ça.
Il y a une raison pour ça, mais Gilles Verdez veut intervenir. Mais s'il ne donne pas cette raison, je la donnerai.
Mais c'est parce que c'est pas clair pour eux, ces supporters-là de Bordeaux, en plein milieu du match. La direction fait un tweet, la direction du club, très méchant sur eux.
Sur écran géant.
Écran géant, pour les dénigrer. Alors
non,
que c'est...
non, c'est-à-dire pour rappeler que toutes les paroles injurieuses sont interdites dans le stade, etc.
Donc
etc.
pour les dénigrer.
Oui, mais enfin bon.
Enfin, c'est très bien que ça les encourage. Hein.
Et voilà, et à ce moment-là, les supporters prennent, je dirais, d'assaut symboliquement la tribune comme un lieu de rébellion. Et là où je vous rejoins, c'est que les tribunes vont devenir un lieu de rébellion. À Lens, les gens vont s'embrasser, les gens ne vont plus respecter le protocole. À Bordeaux, la tribune devient un terrain politique. Et donc, c'est un gros risque. Mais parce que c'est pas clair, ce protocole. C'est ce protocole qui change en cours de saison. Le règlement ne change pas au milieu de compétition.
C'est un sentiment d'injustice, je pense aussi, très fort, qu'ils sont en train de vivre les supporters depuis un certain temps. Parce qu'ils voient que de leur côté, on leur impose les 5000 supporters maximum. Tandis que dans d'autres domaines, on voit que les gens, il y a des rassemblements où ils sont aussi sans masque, ils s'émêlent. Et concernant en Bordeaux, il est vrai qu'à un moment je veux passer un tweet des ultras bordelais qui disent « Oui, mais regardez de votre côté, les partenaires, ils sont sans masque. » Donc nous, de notre côté, certes, on est un peu agglutinés, mais voilà, on a nos masques. Donc ils l'ont senti effectivement comme une attaque. Et je ne pense pas qu'il faut qu'on rentre dans ces genres d'affrontements, surtout parce que la situation elle est un peu plus grave que celle-là. Donc il faut vraiment voler plus haut que ça et essayer de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas ces sentiments d'injustice, que les gens puissent petit à petit revenir au match et pas qu'il y ait des sanctions et des sanctions parce qu'ils n'arrivent pas à respecter. Comme ça, on ne s'en sort pas.
C'est ce sur quoi je voulais effectivement insister, c'est-à-dire que les porte-paroles des ultramarines disaient regardez, dans les loges, les gens ne portent pas de masque, nous, on se sent insultés, il y a un vrai mépris de classe.
Oui. Mais non, mais c'est même pas un mépris de classe, c'est une incompréhension. Je veux dire, aujourd'hui, nous tous, on le vit au quotidien, il y a plein de choses qui sont incompréhensibles et paradoxales dans la situation. Vous allez au restaurant, vous mettez un masque pour rentrer au restaurant, quand vous êtes au restaurant assis à la table, vous l'enlevez. Mais à côté de vous, même si elle est 1m50, il y a plein de gens. Bah, dans le stade, pourquoi est-ce que dans le stade, finalement, il faut garder le masque alors que vous pouvez limite avoir quelqu'un à 1m50 de vous? À la rigueur, là où je peux éventuellement dire, c'est essayer de les stades sont grands, donc 5000 personnes, vous, quand même, vous pouvez les écarter. Donc là, c'est aussi au club peut-être de faire un petit peu la police et de faire en sorte que ce soit respecté.
Bordeaux ou les supporters, on le mérite quand même, vu le spectacle proposé depuis quelques saisons, on du mérite d'aller au club. Et je reviens sur le tweet. Le tweet, c'était pour leur reprocher de se réunir en bas. C'est-à-dire, c'était pour leur reprocher d'être supporters. Donc, les directions de club et la Ligue, telle qu'elle a instauré le protocole, nient l'existence même des supporters. Moi, je dis, autant ne pas leur permettre du tout d'aller au stade, plutôt que de faire ça dans un stade. Parce que les supporters, ils vont se réunir dehors si ça continue. Et là, on ne pourra plus du tout les gérer.
C'est un vrai débat au sein des instances de supporterisme partout en Europe. Certains ont clairement appelé au boycott du football tant que les conditions pour supporter, comme ils l'entendent, ne sont pas réunies. Mais c'est vrai que... Encore une fois, moi, ce qui me dérange un peu, c'est le prisme tout de suite sur le sport, sur le football. On a vu effectivement ces images des Lensois qui s'agglutinaient sur le but. Évidemment qu'on peut pas dire que c'est la marche à suivre et applaudir, mais tout de suite. On stigmatise, on montre parce que c'est le football, parce que c'est facile. On parle pas du fait que parce que c'est économiquement nécessaire, vous avez la SNCF ou Air France qui continue de bonder les rames avec des gens, alors certes avec des masques, mais qui sont les uns sur les autres. À mon avis, c'est pas plus Covid que.
Et vous savez, il y a un sport que j'affectionne particulièrement, mais je regardais encore à Lyon l'arrivée de l'étape du Tour. Bon, alors effectivement, il y a une zone, j'allais dire une zone franche, mais une zone sans public dans le dernier kilomètre. En tout cas sur la ligne d'arrivée, ou en tout cas avec 1000 ou 2000 personnes, mais enfin il y avait un monde fou, mais c'était un spectacle populaire. Comment peut-on reprocher à ces gens-là de venir assister à ce spectacle? Ou alors ce spectacle ne se tient pas?
On ne peut pas, et le Tour de France, même si c'est gratuit, c'est du business.
La caravane publicitaire et tout le bazar.
Bien entendu, s'il n'y a plus de spectateurs sur la route du Tour, les villes ne vont plus pouvoir accueillir, la télé va se dire bof, ça n'intéresse personne, donc c'est du business, et on est indulgent avec le Tour de France, alors que sur les stades, c'est vrai qu'on n'a pas attention. Il va y avoir, là où je vous rejoins parfaitement, il va y avoir un vrai problème avec les supporters. Une vraie rupture. Vraie rupture avec nos supporters.
Et quand on dit qu'il faut rassembler toutes les familles du foot français, il ne faudrait pas oublier qu'une des familles, c'est les supporters.
Risque de propagation, on y reviendra peut-être dans un instant. On verra comment ça se passe ou comment ça va se passer demain soir au Parc des Princes. Parce que là, normalement, il y a une jauge à 5000. Et cette jauge, elle est volontairement réduite. Elle ne sera même pas à 5000, 3800, 3900. On verra ça après la publicité.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Dans 5 minutes environ, vos messages sur les réseaux sociaux, très nombreux, me le confirme Baptiste Derieux, concernant justement peut-être la frustration des supporters à ne pas venir en tribune. Et puis à 19h47, les tirs au but. Une série de questions sur l'actualité, je le rappelle, pour tous ceux qui nous rejoindraient. Ce sont des questions d'actualité qui ne sont pas transmises à Cindy, à Gilles, à Florian ou encore à Philippe. Et c'est comme un tir au but, où on a les jambes qui tremblent, ou alors on a vraiment du caractère et on prend le ballon et on met le ballon au fond des filets. Les supporters au bord de la crise de nerfs, risque de propagation ou pas, Gilles Verdez?
Oui, absolument. Il faut faire très attention à eux. Risque de propagation très net et très rapide.
Philippe Sanfourche.
Oui, ça fait des années de toute façon qu'il y a des tensions. Après,
non, mais là, on est dans un contexte différent.
Oui, mais ça vient s'ajouter à des tensions déjà existantes. Donc forcément, la situation, elle peut... être explosive.
Par exemple, pourquoi il y a 3800 ou 900 spectateurs seulement au Parc des Princes alors qu'il y a une jauge à 5000?
Mais parce que il vous aura pas échappé qu'il y a de la presse déjà, il y a de la sécurité, il y a aussi la volonté du côté, vous savez que le Paris Saint-Germain a d'énormes contrats avec des partenaires et des sponsors. Donc les hospitalités qu'on appelle ça représente je crois 700 ou 800 personnes.
Alors là vous n'arrangez pas les choses avec le supporter de base.
Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que si on veut avoir Neymar et Mbappé, il faut avoir aussi des sponsors et voilà, donc c'est tout ça c'est logique. Donc au final, il n'y a que 2800 supporters, on va dire, au sens classique du
2800
terme,
simplement
qui ont maîtrisé. Été non pas tirés au sort, on s'est beaucoup pris la tête à la direction du PSG pour savoir comment faire. Finalement, c'est premier arrivé, premier servi, quoi. C'est-à-dire l'ouverture de la billetterie, on a la chance d'y être.
Non, mais de base, les problèmes, c'est cette jauge à 5000. Enfin, on voit bien qu'on peut, en organisant mieux, aller au-delà. Et ça, c'est pour ça qu'on revient encore au sujet.
Le PSG demande des dérogations à chaque fois, mais la préfecture dit non. Ils ont demandé 18 000.
C'est que par journée à Roland-Garros, tu vas pouvoir accueillir 11 500 spectateurs.
C'est plus petit. Enfin,
donc à Roland-Garros, 11 500 spectateurs.
Parce qu'ils estiment que c'est. Enfin, c'est pas qu'ils estiment, c'est que dans les faits, ce sont. Au sein de Roland-Garros, il y a plusieurs cours. Chaque cours étant considéré comme un stade.
D'accord.
Et donc, c'est 5000 par stade.
D'accord. Mais enfin, si tu mets 5000 à circuler, alors. Si tu en mets 5000 à.
Avec des flèches, des rondes.
Ah, et donc, quand tu veux aller du central au machin,
non,
tu
vas s'y mêler. Non, ils s'y mêleront pas.
Et si tu en mets 5000 à Auteuil, 5000 à Boulogne et 5000 à Tribune Paris.
Voilà.
Ah oui, mais. Ça fait 15 000 et tu
l'enlèves. Vraiment, là, vous êtes réglementaire d'habitude, oui, là, vous franchissez allègrement les protocoles, là. Vous exonérez les protocoles.
J'ai peur de la colère des supporters.
Mais oui, mais vous savez, y a, pour revenir sur ce que disait Philippe, il y a un vrai problème avec la répartition des places parmi les abonnés. À Lens, par exemple, ils avaient privilégié la tribune des fans absolus. C'est pour ça qu'il y a eu cette proximité. À Paris, le tirage, enfin la répartition, la manière de répartir a suscité d'énormes problèmes. À Bordeaux, des insatisfactions. Partout, cette jauge de 5000, pourquoi elle est nulle aussi? Parce que ça crée encore plus d'insatisfaction. T'y es pas. À Lens, ça va être, je crois, un match sur quatre pour les abonnés. Ils sont fous, les abonnés.
Ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens.
Surtout si tu tombes sur le mauvais match, quoi.
Absolument.
C'est là, par exemple, le PSG, il y avait dans la foulée, il y a l'OM dimanche et puis il y a Metz mercredi. Vous pensez que les supporters, ils mettent genre, un pied d'égalité?
C'est, oui, mais c'est alors là, vous êtes tous d'accord autour de cette table, mais on parlait du bilan, et non pas uniquement, là, pour le coup, du bilan financier de Didier Quillot. Lui, il réclamait un assouplissement de ce protocole. On verra si Vincent Labrune l'obtient, cet assouplissement.
Mais le problème, il est là. En fait, on l'a vu même quand il y a eu les sélections des ministères, enfin, pardon, pas les sélections, quand il y a eu les ministres ont été nommés, on a vu que les ministères des sports passent sur tout elle. Déjà, c'était pas un bon signe. On voit qu'ils ont de plus en plus à réussir à trouver ou à discuter même avec les instances gouvernementales et qu'il faut qu'il y ait ces liens pour que les foot aussi puissent avancer. Moi, je trouve que la place du football en France, elle est vraiment en train de reculer et on les voit. La traduction, c'est ça. Ce sont ces genres de choses où il n'y en a pas des efforts qui sont faits par rapport à ces jauges, ces 5000.
Il faut bien qu'on s'entende. Il y a un contrôle sanitaire et la situation est préoccupante, très bien, mais on a l'impression qu'on assiste vraiment à des choses différentes d'un sport à l'autre. C'est
oui,
ça qui...
Il y a aussi la prise en compte du fait que, par exemple, que pour le rugby, il y a beaucoup moins, les contrats de diffuseurs sont moins importants, il y a moins de sponsors, donc l'aspect billetterie est primordial. Donc nos autorités prennent ça en considération en disant que le rugby est sous perfusion, enfin, s'il n'y a pas la billetterie.
Vous ne faites rien pour arranger la situation.
Ça n'a pas de sens. Donc,
vous privilégiez les loges et maintenant vous dites qu'il faut privilégier la télé.
Parce que je vous donne les explications qui sont données au ministère.
C'est...
Après, vous en faites ce que vous voulez.
Florian Gazan.
Donc tout est lié finalement à des questions d'argent. Donc en fait, ça nie l'essence même du sport. En fait, là, c'est plus des stades, c'est la bourse. En fait.
Et il faut même se rendre compte que pour Lens, précisément, s'il y a la répartition a été faite ou mal faite ou en tout cas critiquée, c'est aussi une question d'argent parce que le Racing Club de Lens ne voulait pas rapatrier tous les stadiers pour une porte en face en faire rentrer simplement 200, une porte à gauche en faire rentrer 350, etc., etc. Donc c'est un vrai problème. Attention, danger.
L'Angleterre, par exemple, on joue devant des stades vides.
Mais les supporters assument, ne viennent pas.
Absolument. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, mais ce système à 5000, c'est l'insatisfaction généralisée. Donc il va falloir régler ça très vite.
Et en même temps, moi, pour avoir commenté des matchs cet été, que ce soit avec une jauge à 5000 ou avec personne, je peux vous dire que le Stade de France, France-Croatie, dans le Stade de France, cette immense enceinte de 80 000 places totalement vide, c'était mortuaire. Alors que vous vivez un match qui l'affiche de la finale de la Coupe du Monde, c'était mortuaire.
C'est vrai. Finalement, il n'y a qu'à Monaco qui ne sont pas gênés par la jauge des 5000. Quoi. C'est la bonne nouvelle.
19h45, ça se précise, les tirs au but. Vous savez qu'on fait le match, c'est 90 minutes, hein, comme la durée d'un match de football.
Certaines jambes commencent à trembler.
Exactement. Ouais. Donc, y en a
je vais faire Griezmann, moi.
Il y en a qui s'approchent de l'entraîneur, qui regardent s'ils sont couchés sur la petite feuille.
Pas ce soir, coach.
Parler très fort, mais sortir une saucisse.
Et du coup, les amis, Griezmann, c'est encore un match amical, hein, ouais. Une préparation en Espagne. Ouais. Mais,
ah oui, là, il y a un problème aussi avec la Liga, enfin, entre la Liga et la Fédération espagnole, parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça arrive, ces choses-là. Et en fait, il y a des matchs qui ont été décalés parce qu'ils ne peuvent pas jouer vendredi et lundi. Mm-hmm. Et donc, du coup, il n'y a pas eu match hier, c'est un match qui aura lieu.
Là, ce sont les matchs de préparation, hein, les matchs amicaux. Ouais. Hein.
Oui, parce que Barcelone et Real sont dispensés, par exemple, du début du championnat.
Et Real et tout ça, tous les gros clubs. Quoi.
Ah oui, c'est marrant, ça existe dans les pays.
Ah bah, ça existe, ouais.
Dispensé, c'est-à-dire.
Mais ils commencent pas la première journée. Le match de la première journée a été reporté en janvier, par exemple.
Les deux premiers.
Mais oui, les deux premiers, les deux premières journées. Barcelone et Real jouent pas en championnat.
Parce qu'ils ont, joué à la Ligue des Champions. Ils sont allés moins loin que certains autres clubs, mais ils ont le droit de. Enfin,
bon, voilà, en Angleterre, c'est la première journée.
Il était temps que la direction de la Ligue change quand même, Christian, parce que tout n'était pas parfait.
Écoutez,
voyez.
Tout n'était sans doute pas parfait, mais nous verrons si maintenant la nouvelle direction tente la perfection. On verra, c'est difficile, ça va être dur.
Ils vont moderniser.
Modernisons. En Angleterre, Liverpool mène face au Leeds de Bielsa sur le score de 3-2 et on joue la 58e minute. Et la défense de Leeds, sera pas la meilleure du championnat anglais.
C'est une équipe de Bielsa.
Bon. Publicité ? Non, pas publicité. Les réseaux sociaux avec Baptiste Durieux. Et puis un petit coup d'œil quand même sur le championnat de France de Ligue 2, Baptiste.
Alors, Ligue 2 ou réseau
d'abord ? Ah, vous choisissez.
Alors, réseaux sociaux, on va partir là-dessus. Message de Johan : on ne peut pas en vouloir aux supporters. C'est eux qui font vivre le football. C'est eux les belles images, les matchs enflammés, la passion, les chants et tout le reste. Il faut en prendre soin et tout faire pour qu'ils reviennent animer cette Ligue 1 bien triste. Et puis message de Simon qui est en opposition avec la vision de Johan. Les supporters et en particulier les ultras ont une vraie responsabilité. Ils portent aussi l'image du club sur leurs épaules. Ils doivent être exemplaires et irréprochables. Et la Ligue 2 ?
Et la Ligue 2, championnat de France.
Bien sûr, c'est la mi-temps sur toutes les pelouses. Christian, le Paris FC qui mène 1-0 face à Amiens, 0-0 entre Auxerre et Clermont-Chambly qui mène 1-0 contre Grenoble, 0-0 entre Niort et Nancy, Caen qui mène par 1-0 sur la pelouse de Rodez, 1-0 pour 3 face à Pau et toujours 0-0 entre Valenciennes et Châteauroux réduit à 10.
Merci Baptiste qui parlait du Paris FC. Il y a un investisseur qui est arrivé au sein du
Bahreïn.
Le Bahreïn. Ouais. Attention, il y a un deuxième investisseur qui est sur le point d'arriver.
Ah, ah
oui.
Bonne info.
Ah. Gros investisseur.
C'est vous, Christian ?
Non, ça se saurait si j'avais les moyens. Monsieur Gazan. 19h47, la pub et les tirs au but. C'est On fait le match, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Allez, on fait le match, les tirs au but. Après les nombreux débats, si vous étiez avec nous depuis 18h30, on a parlé de Vincent Labrune, le nouveau patron de la Ligue du football professionnel. On a enchaîné sur Paris Saint-Germain, Marseille, demain soir au Parc des Princes. On a évoqué également les supporters, peut-être, en tous les cas, ceux qui ne peuvent pas se rendre au stade au bord de la crise de nerfs. Nous verrons à l'avenir. Les tirs au but, c'est une petite nouveauté qui nous permet également d'évoquer le reste de l'actualité. Et figurez-vous qu'on a pas du tout parlé depuis 18h30 de l'équipe de France. C'est-à-dire que quand l'équipe de France enchaîne les bons résultats, il n'y a pas de polémique, on n'en parle pas. Ça ne vous a pas échappé.
Très injuste.
Bon, alors, l'équipe de France, 6 points en 2 matchs, Suède-Croatie. J'imagine, madame, messieurs, que vous avez vu tous les autres matchs qui se sont disputés cette semaine. Les Bleus sont-ils les meilleurs d'Europe ?
Bien sûr. Ah, laissez-moi commencer, bien sûr, mais nous n'avons pas de rivaux, c'est comme à la Coupe du Monde. Il y a éventuellement les Belges, mais mentalement, à chaque fois, ils sont fragiles et on les bat. Donc, il n'y a personne, j'ai vu les Pays-Bas, l'Allemagne, nous sommes les meilleurs, donc arrêtons les critiques. Je demande solennellement que les médias arrêtent de critiquer l'équipe de France, qui va encore, sans doute, elle l'aurait remporté là, l'Euro. Et je pense que nous allons encore le remporter dans un an, même si ce sera plus dur. Donc arrêtons de critiquer les Bleus.
Arrêtons les critiques, on en parlait déjà la semaine dernière, on fait le match.
Mais on a gagné deux fois, effectivement.
Soyons précis sur les mots.
Philippe Sanfourche.
Pas les meilleurs, mais les plus forts. C'est-à-dire que à chaque fois on se fait cette remarque, cette équipe elle est souvent bousculée, des équipes joueuses comme la Croatie les mettent face à leur difficulté et l'incapacité parfois de créer le jeu, même si Deschamps, on ne peut pas lui reprocher, là, il tente un nouveau système, il fait venir des nouveaux joueurs. Et malgré tout, il y a cette espèce d'ADN de cette équipe de France, on ne sait pas trop comment elle joue, pas très flamboyante, mais sauf que quand elle se fait rentrer dans le chou et qu'elle commence à être menée, eh ben, il y a cette capacité de réaction. Et sur une ou deux actions, le but notamment, le jeu à trois avec Griezmann, extraordinaire, Martial, formidable, un but d'école, Ben Yedder. Voilà, donc ce n'est pas forcément la plus belle, ce n'est pas la meilleure, mais ça reste la plus forte.
Bon, en tout cas, le premier tir au but a été transformé par Gilles Verdez, hein, à l'évidence. Deuxième tir au but, madame, messieurs, Marcelo Bielsa. Tiens, Leeds joue depuis 18h30. Hein. Leeds de Bielsa est mené 62 minutes de jeu face à Liverpool sur le score de 3-2. La Bielsa mania est-elle justifiée ou pas?
Oui. Oui, parce que Bielsa, c'est un personnage, c'est du caractère, c'est pas juste du football, c'est la façon dont il arrive aussi à faire sortir des équipes telles Leeds, à affronter là un Liverpool qui est quand même l'équipe la plus forte actuellement, une des plus fortes, et à tenir tête en fait. Donc je pense que c'est justifié. Après, si on voit les bilans avec l'OM, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Ce n'est pas pour moi les grands Bielsa argentins qu'on adore, mais voilà.
Ouais, c'est totalement pas juste du football. Non, c'est totalement surdimensionné à mon sens. Leeds est une équipe historique du championnat d'Angleterre qui a gagné des coupes d'Europe, qui a gagné des championnats.
Oui, c'est
tout à fait normal qu'ils remontent en première ligue. Est-ce qu'on fait des papiers, est-ce qu'on fait des documentaires, des débats pendant des heures sur le fait qu'une équipe remonte de série B en série A en Italie?
Oui, mais alors on va te reprocher ton manque de culture footballistique.
Mais non, mais c'est totalement surdimensionné. Bielsa, c'est totalement surdimensionné. Encore une fois, si le football
c'est
durait
un
60
personnage.
Minutes,
personnage.
Ce serait le meilleur entraîneur du monde. Le football dure 90 minutes et à la fin, il gagne rien.
Non, mais Bielsa, il a ce côté fascinant. En fait, il incarne
romanesque.
Il incarne typiquement la question essentielle du football. Est-ce que au football, l'important, c'est de gagner ou de bien jouer? Il incarne ça. Lui, on a compris que c'était de bien jouer. Les résultats, il s'en fout. Et voilà, c'est une vision très romantique, extrêmement romantique du football. On l'aime pas, mais on peut pas lui enlever ça.
C'est un penseur du football. C'est un guide spirituel. Le problème, c'est qu'avec lui, vous perdez tout le temps. Mais c'est magnifique.
Bon, allez, tir au but, je l'accorde à Cindy Colmenares.
Il suffit de répondre en premier. Quoi,
non, oui, ouais, exactement.
Attention.
Troisième tir au but. Ah oui, mais j'ai pas trouvé de concept.
Essayez.
Il faut cadrer quand même.
Vous savez, hein, le maire écolo de Lyon a le Tour de France dans le collimateur.
Ah non, c'est fait que j'en parle.
Ça ne vous a pas échappé. Vous savez que Lyon, donc, que Marseille également, Bordeaux, au pif, Tours aussi, mais enfin on parle des clubs de Ligue 1, ont un maire écolo. Est-ce que vous ne craignez pas que le football passe à la guillotine de l'écologie?
Oui. Moi je pense que déjà à Bordeaux,
on a le droit de frapper deux tirs au but.
Le coup de sifflet.
Non, mais ça sent les sapins à Bordeaux, honnêtement, ou pas, justement, je sais pas.
Allez.
Non, moi j'avais un dit, ça sent les sapins à Bordeaux, ou pas, justement. Enfin, il y a beaucoup de problèmes actuellement, mais c'est vrai que quand on voit ces démagogies permanentes des mêlées, l'écologie à droite à gauche, mais on ne comprend pas très bien où ils veulent en venir. C'est vrai qu'on peut craindre que tout cela puisse se refléter sur les footballs.
Ouais, bon, après, de toute façon, voilà, ils sont dans leur positionnement. Le maire de Lyon nous fait bien rigoler à vomir sur le Tour de France il y a quelques jours. Puis ce soir, il remet le maillot vert. Il remet quand même un maillot, histoire d'être sur la photo et de dire moi, j'ai quand même participé au Tour de France.
On est sûr de ça parce qu'il y avait du suspense. Hein. Dans le journal de 18h, j'entendais Christophe Paco qui disait oui, on en parle, mais on l'attend toujours. Donc
ce sont des politiques. Hein. Ils iront jamais contre le sens du vent. Donc si que ça commence un peu à grincer le fait de s'attaquer au club de football, ils reviendront dans le cadre droit du fil. Donc voilà, c'est comme à Bordeaux. De toute façon, à Bordeaux, ils n'aiment pas tout ce qui est mort. Donc ils prennent des fonds de pension. Donc,
pour l'instant, ils ne sont pas attaqués aux émissions de foot. Parce que moi, je n'ai pas entendu les maires venir dire dans les émissions, il n'y a que des hommes. Donc du coup, c'est machiste. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis aujourd'hui. Parce que l'émission n'est pas machiste.
Attention,
non, j'étais prévu depuis un moment.
On approche de la fin. Oui, mais c'est le sens de l'anticipation, si vous me permettez, Cindy.
Voilà,
Olivier Giroud n'a pas voulu aller à Lyon car c'est la ville de Benzema. C'est ce qu'il a confié dans son livre. Est-ce que vous pensez que cette sortie est maladroite ou que finalement c'est
non, elle a été dénoncée.
Finalement, que c'est la réponse du berger à la bergère. Coup de sifflet.
honnête. Mais il a raison, Olivier Giraud. Il a raison de... Il sait qu'il est quand même la victime collatérale de cette histoire de la sextape. On a l'impression qu'il a trempé dedans, alors que pas du tout. Et voilà, il sait très bien, il va pas se jeter dans la gueule du loup. De toute façon, je pense pas qu'il avait une envie folissime d'aller jouer à Lyon. Donc voilà, c'était même peut-être une excuse pour pas venir, pour poliment dire non au président Lasse. Après, il faut tenir compte du contexte. Ces joueurs ont des familles, ont des gens qui souffrent aussi de ce genre de choses. Qu'est-ce qui va aller s'embêter, Olivier Giraud, à aller à Lyon? Vous allez me dire, Valbuena y est allé. Mais finalement, est-ce que Valbuena était si heureux après
avoir fait Lyon? Non, mais dis-nous que ce soit Lyon ou une autre ville de France, il faut les savoir. C'est un joueur qui, malheureusement, a hérité d'un problème qui ne lui concerne pas du tout des bases. Et du coup, les contextes auraient été compliqués. Donc moi, je pense surtout que ses propos ont été raccourcis, détournés, et qu'il a raison. Il a raison de défendre sa famille et de défendre aussi la bonne ambiance.
J'ai encore deux tirs au but pour évacuer le reste de l'actualité, mais il va falloir faire très très court.
Allez,
il va falloir
être très court.
Ah oui, non, mais attendez, messieurs.
Tirs au but, c'est ça que ça doit partir.
La Ligue 2, Guingamp s'est encore incliné cet après-midi. On va virer l'entraîneur, bientôt le directeur sportif, etc. Vous n'avez pas le sentiment, finalement, que Le Graët va renoncer aux élections de la 3F au mois de mars et qu'il va reprendre le club dans l'avant Guingamp?
Il faut qu'il sauve Guingamp. Il n'y a que lui qui peut sauver Guingamp. Guingamp, c'est n'importe quoi. Gravelaine a fait n'importe quoi comme d'habitude. Donc ça ne peut plus durer. Il faut que le président Le Graët et sa famille reprennent Guingamp pour peut-être sauver la saison. Mais c'est déjà trop tard, à mon avis.
Il a toujours eu un œil, non?
C'est son club
là, il en faut deux. La question, puisqu'à 21h, nous avons le match Saint-Étienne-Strasbourg en Alsace, à la Ménos. Strasbourg-Saint-Étienne, à suivre sur l'antenne de RTL. Claude Puel, est-il un diviseur? Il est en conflit avec pas mal de joueurs à Saint-Étienne. Est-il un diviseur ou est-il là pour travailler afin de redonner aux Verts toutes leurs lettres de noblesse?
Dans un club, déjà, de toute façon, il y a deux présidents. Déjà, la division est naturelle dans ce club. Donc, Claude Puel est arrivé dans un club où, par essence et dans l'ADN, il y a ces genres de problématiques. Après, Claude Puel, il est clair, il est net. On sait avec qui il veut travailler, on sait avec qui il veut pas travailler. Les méthodes, elles sont ce qu'elles sont. Mais au moins, lui, il est pas hypocrite, il est franc du collier.
Du caractère, tout simplement. Donc, du coup, il va forcément, parfois, ça va choquer, mais c'est ça aussi qui donne envie et qui leur donner là peut-être la possibilité d'aller un peu plus loin de ce qu'ils peuvent aujourd'hui faire dans l'État.
J'aperçois en régie toute l'équipe d'Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin, RTL Foot, 20h-23h. Tous vos rendez-vous jusqu'à 21h, au moment du coup d'envoi évidemment, entre Strasbourg et l'AS Saint-Étienne. Merci à vous tous d'avoir participé à cette 4e d'en fait le match. Merci Cindy, merci Gilles, merci Florian, merci Philippe. Et merci à vous tous de nous être fidèles. Merci également à Baptiste Durieux en régie. Et merci à Lucas pour la réalisation. À samedi prochain. Ciao, ciao.
RTL, on refait le...